Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Dès le lendemain, nous partons à destination de la Kalmoukie, tous les trois, en voiture. Jusqu'à Elista, le voyage doit durer 2 jours, une longue descente de 1400 km vers le sud-ouest de la Russie. Ce sera mon 2e séjour là-bas. Et Serge, qui rentre lui aussi de Moscou après sa visite à la Douma, a proposé de m'y conduire. La première journée, nous empruntons la magistrale numéro 4, un long ruban sombre qui parcourt le pays du nord au sud, reliant Moscou, la capitale, à Roscoff, la grande ville industrielle du sud, avec sa forteresse imposante et ses clochers fantasques plantés au bord de la mer Noire. 1517 km de goudron qui trace une des principales autoroutes du pays. L'échappée vers les stations balnéaires de la mer Noire, destination Sotchi la tapageuse ou Anapa la populaire, fréquentée comme un métro à l'heure de pointe. Une fierté nationale, la route des vacances, celle des pastèques aussi, qui afflue en sens inverse pour égayer un peu les terres à patates du Nord à la belle saison. Depuis le mois de février, et l'invasion de l'Ukraine, il n'y a plus un seul avion qui traverse le ciel du sud de la Russie. Trop dangereux, et la route, bien que longue, est devenue le seul moyen de rejoindre la côte de la mer Noire, ainsi que l'Ukraine. Autour de nous, des minibus chargés de vacanciers, avides de loisirs, d'apéros, de couleurs, de glace et de bords de mer, se mélangent sans ciller à des convois militaires kaki, dont on ne distingue presque rien. Bientôt, les routes vont se séparer, celles des vacanciers et celles des militaires. La vie à gauche, la mort à droite, un mélange étrange d'indolence et de conquête, de gravité et de routine. L'autoroute du soleil muée en voie express, un tapis rouge sang pour la guerre. C'est vrai qu'après tout, elle a aussi un nom de fusil, la M4.
Bonjour Marine Dumurgé.
Bonjour.
Et merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez principalement pour Libération et le magazine Géo et vous avez aussi rédigé de nombreux articles sur la Russie. Et aujourd'hui, vous nous recevez pour parler du prince de Kalmoukie, un étonnant voyage dans la steppe russe, un récit de non-fiction, votre premier livre publié aux éditions Marchiali. Alors ce livre, c'est l'histoire de la rencontre entre une région reculée de la Russie européenne à 1000 km au sud-ouest de Moscou, la République de la Kalmoukie donc, et un homme, Serge, qui se trouve être le dernier prince Kalmouk. Alors je dis « se trouve être » puisqu'il décide assez tardivement d'incarner ce titre et cette fonction. En réalité, Serge est français, descendant d'une lignée d'aristocrates ayant fui la Russie pendant la révolution bolchévique dans les années 20, ce qu'on appelle les Russes blancs. Alors qu'il vit avec son père dans le sud de la France, un jour, il est contacté de manière un peu inattendue par un homme qui voudrait le rencontrer. Lui, le descendant de Danzan Tundutov, si je ne me trompe pas, prince cavalier nomade, personnage très respecté dans la culture kalmouk. Et après plusieurs séjours sur la terre de ses ancêtres, Serge se laisse séduire et il décide de s'y installer définitivement. Alors avant de revenir sur la figure de cet homme, pouvez-vous d'abord nous dire en quelques mots les liens que vous-même vous entretenez avec la Russie et quelques mots sur les circonstances qui vous ont mené en Kalmoukie ?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai vécu en Russie. Alors à la base, j'ai pas de lien, j'ai pas d'histoire familiale avec la Russie. Voilà, j'ai pas d'origine russe. Je le précise parce que souvent, c'est vrai, les gens qu'on trouve en Russie, il y en a une grande partie chez les expatriés qui ont des origines russes. Moi, j'en ai pas. Il s'est trouvé que j'ai toujours été intéressée par l'histoire de l'Union soviétique. J'avais voulu d'ailleurs, j'ai fait des études d'histoire, j'avais voulu faire ma maîtrise à l'époque, c'était une maîtrise d'histoire là-dessus, et puis j'avais pas pu parce que je parlais pas russe à l'époque. Et voilà, quand est venu le temps de travailler, j'étais journaliste et j'avais envie d'aller à l'étranger. Et donc, je suis partie à Moscou parce que je savais qu'il y avait du travail. J'étais journaliste indépendante. Je savais que les journalistes en Russie, en général, ne s'installaient pas. Donc, il y avait un turnover assez important. Et donc, j'ai vécu 2 ans à Moscou. C'était dans les années 2010, de 2010 à 2012, en gros. Et c'est là où, en tant que journaliste indépendante, j'ai fait pas mal de reportages. J'essayais de quitter la capitale le plus souvent possible. Voilà, j'avais envie de découvrir la province russe. Je travaillais beaucoup en presse magazine à l'époque et puis j'étais associée, je m'étais mis en binôme avec un photographe russe qui faisait beaucoup de reportages lui aussi en province.
Anton,
c'est ça,
on rencontre dans
qui est présent tout à fait, qui est un des personnages dans le livre. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la Kalmoukie, qui est une région très originale pour la Russie. Déjà, c'est la province russe dont on parle peu. Ensuite, c'est une région bouddhiste, qui est bouddhiste, mais qui n'est pas à l'est, qui fait partie de la Russie européenne, donc l'ouest de la Russie, qui n'est pas si loin de l'Ukraine, en fait, qui est près de la Caspienne.
Oui, alors il y a une petite carte au début du livre hein, pour nous aider à situer ce pays dont peu de gens ont entendu parler, hein, en tout cas ici en Europe.
Oui, c'est ça, ouais, c'est une république qui est autonome au sein de la Fédération de Russie. C'est une des régions les plus pauvres de Russie. C'est une région de steppe, le paysage, voilà, on est vraiment aux marges du Caucase. Dont on entend beaucoup plus souvent parler, le Caucase. Mais là, ça ressemble en fait un peu à l'Asie centrale.
Donc, ton livre, c'est vraiment une enquête. Enfin, cette enquête, c'est une immersion dans ce que tu appelles la galaxie lointaine de la Kalmoukie. Pour te citer, tu parles encore d'univers parallèle au cœur de la steppe russe, où se côtoient des vestiges d'héritage assez divers, des temples bouddhistes, des statues de héros soviétiques, un échiquier géant. Et ce qui frappe surtout, c'est le sentiment d'abandon de cette région et de ses habitants, malmenés par la grande histoire. Tu écris en Kalmoukie toute cette histoire de désert et de désertion. C'est un pays loin de Moscou qui se vide et qui s'en sable. Et c'est très touchant dans ta façon de décrire ces paysages. Ils flottent un peu entre les lignes comme un parfum de romantisme, avec tout ce que ça convoque, des descriptions appliquées de paysages de la steppe, des saïgas grandioses, stupéfiantes, l'évocation aussi des destinées romanesques. Ce romantisme, comme tu dis, de l'utopie fondue en dystopie. Alors ce prisme du romantisme, est-ce qu'il est toujours un peu présent dès que tu t'intéresses à cette région du monde?
Oui, oui, bah forcément, c'est quelque chose qui me questionne. En fait, quand on sort de Moscou et de Saint-Pétersbourg, on a la province russe immense. On a néanmoins, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, vu d'Europe, on a néanmoins des villes qui sont très modernes, en Sibérie. Voilà, je sais pas, on a des villes comme Khabarovsk, Yekaterinbourg, donc c'est pas forcément, on n'a pas forcément des villes comme ça très soviétiques, très, enfin il y en a bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. Et là, à Elista, c'est vrai que il y a vraiment cette impression due à la pauvreté et aussi à l'histoire, puisque les temples bouddhistes ont commencé à être construits après la chute de l'URSS. Donc c'est plutôt récent, donc on a ces temples très étincelants, très rouges, très dorés, et à côté on a ces bâtiments, notamment ces Khrouchtchevka, c'est donc vraiment les immeubles des années 50-60 qui sont souvent en mauvais état, ces collectifs dans la ville, et puis les fresques soviétiques, donc on a vraiment ces deux ambiances en parallèle. Et dans la steppe, donc quand on quitte la capitale, on a vraiment ces villes où le désert avance. En fait, il y a un processus de désertification qui est en route et le désert avance sur la steppe et des villages qui sont quasiment ensevelis puisque les gens partent beaucoup, ils vont beaucoup travailler à Moscou. Donc on a ce sentiment d'abandon qui est très fort en Kalmoukie. Et qui, c'est vrai, a un côté assez fascinant, même si peut-être en arrivant en Russie, c'est vrai que j'étais assez attirée, mais je crois comme beaucoup de monde, par ces zones-là, les zones post-militaires, les anciennes bases militaires. C'est vrai que c'est assez fascinant, mais aussi quelque part, il a commencé à émerger chez moi un malaise. Je crois que j'y fais un peu référence dans le livre, parce que c'est romantique, peut-être, ça peut paraître romantique à nos yeux, mais c'est aussi des histoires de vie et c'est aussi quelque chose de douloureux pour la population.
Alors, au milieu de ce paysage, tu rencontres Serge, une figure singulière, touchante par certains aspects, déroutante, voire perturbante. Tout au long de ton récit, tu nous confies que le regard que tu portes sur lui varie au fil, ce regard évolue au fil de tes échanges et tu passes de l'excitation de la découverte à la déception, souvent à la perplexité. Alors tu tentes de comprendre ses motivations, ce qu'il fait ici. Ce prince de Kalmouki, à défaut je pense d'en avoir fait le sujet principal de ton livre, parce que finalement ce qui ressort c'est plus la description de cette région, plus que du personnage de Serge en lui-même. Alors à défaut d'en avoir fait le sujet de ton livre, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à en faire le titre ? Et qu'est-ce qu'il symbolise pour toi ?
Alors, c'est une très bonne question, assez complexe, parce qu'il faut savoir, je crois que pour y répondre, il faut parler de la façon dont le livre a été écrit, des éditions Marchiali, c'est de la non-fiction, donc c'est que tout est vrai. Alors, avec un point de vue, on dit que c'est du journalisme ultra subjectif, et j'aime bien dire ça, parce que tout est vrai, mais tout est très subjectif. Donc voilà, il y a un parti pris. L'objectivité n'existe pas de toute façon, mais là on la cherche pas. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais écrit à Marchiali, donc qui ont accepté le roman. Donc je savais pas encore où on allait aller avec Serge. Surtout la guerre avait pas éclaté avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, qui a énormément changé la perspective dans le livre. Au début, c'est vrai que je suis tombée sur ce type lors de mon premier voyage en Kalmouki, et je me suis dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait là, ce Français, alors que tous les Français, des expats, vivent à Moscou, à Saint-Pétersbourg en général. Lui, il est là, au milieu de nulle part, il est hyper heureux, il a cette histoire incroyable, il est descendant de Pushkin, du prince d'Anzan Tundutov. Voilà, il a vraiment un pédigré incroyable. Et donc, j'ai eu envie d'écrire une histoire qui raconterait aussi l'histoire de la Kalmouki, parce que c'était ça aussi qui m'intéressait. Et puis, au fil du livre, c'est vrai qu'on a passé du temps ensemble et on a eu des différences de point de vue, voilà, de point de vue politique notamment, puisqu'il était plutôt admirateur de Vladimir Poutine. Enfin, voilà, il y avait des choses qui nous éloignaient et qui étaient difficiles pour moi en plus, parce que ça arrive à un moment où, voilà, la guerre a éclaté. J'ai forcément une histoire particulière avec la Russie, beaucoup d'amis qui ont dû quitter le pays, et lui au contraire, parce qu'il est avec son père, décidé de s'y installer en soutenant la politique en place. Donc c'est vrai que j'étais vraiment très interloquée et fâchée par moments d'entendre ça. Ça a été un jeu aussi assez difficile pour moi, une écriture assez difficile, d'arriver à respecter son histoire, à ne pas porter un jugement, mais à le laisser s'exprimer pour que chacun ait son opinion sur son histoire, sur ce qu'il racontait. Donc on était un peu dans un jeu d'équilibre compliqué. et voilà. Et donc après, on a conservé ce titre, Le Prince de Kalmouki. Au départ, en fait, on était parti sur ce titre avec les éditeurs. Après, je dirais que l'histoire de Serge s'est sans doute estompée un peu dans le livre, surtout la deuxième partie où, en fait, ça devient plutôt... où la guerre, en fait, pénètre le récit.
Voilà, c'est ça. Parce que finalement, ce livre devient un prétexte à une immersion dans la société russe contemporaine. Tu exposes une mosaïque d'histoires individuelles qui sont autant de relations avec l'histoire russe, mais aussi avec le pouvoir et ses représentations. Il y a les pro-Vladimir Poutine, les opposants, les plus discrets, des relations qui ont toutes été éprouvées par la guerre, par l'annexion de la Crimée en 2014 et plus récemment par l'invasion de l'Ukraine. Et on perçoit à travers ton livre comment le changement s'est opéré petit à petit, entre ton premier séjour en Russie et puis et le dernier que tu as fait au début des années 2020, tu évoques les Younarmia, je te cite, le patriotisme russe omniprésent. Donc tu es témoin de ce changement, de ce repli, de cette militarisation à grande échelle et en marche du pays et des esprits. Tu écris « La bête qui hibernait se réveille avec un appétit insatiable ».
Oui, c'est vrai que depuis quand je vivais en Russie dans les années 2000, c'est là où il y a eu toutes ces séries de manifestations où les opposants, voilà, manifester. Il y avait déjà des arrestations, mais c'était sans commune mesure avec aujourd'hui. Il y avait comme un espoir, en fait, je pense, quelque chose un peu en suspens où on pouvait se dire que la société russe allait s'ouvrir. Alors maintenant, peut-être que certains vous diront c'est que c'était naïf de penser ça, mais voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je me disais, qu'il y avait une possibilité d'ouverture. Et on a vu, à partir de la Crimée, une censure et une position de plus en plus difficile pour l'opposition, qui est aujourd'hui complètement muselée. Et c'est vrai que moi, j'avais aussi envie de... Au-delà de dans mon livre, il n'y a pas de gens qui sont vraiment politisés, très politisés. On est vraiment un peu avec des gens qui sont... un peu passifs, qui ont des avis, mais qui ne sont pas du tout militants. Mais on voit déjà les réactions, on voit, en fait, c'était un peu, j'avais envie de donner à voir un peu ce qui se passait dans la société, quoi, sur le terrain, avec un peu les gens ordinaires, montrer comment, en fait, ce patriotisme était en train d'émerger sous une forme assez banale et omniprésente.
Mais banale, mais organisée aussi, parce que justement, quand on parle des Younarmia, c'est... Enfin, avec les nouvelles générations, est-ce qu'elles auront le choix justement de rester comme ça, spectatrices et d'avancer en même temps que les événements de l'histoire, ou parce que c'est quand même un mécanisme de propagande extrêmement efficace et assez effrayant quand même.
Oui, ça, alors les Younarmia, en effet, c'est un mouvement militaire de jeunesse. C'est un mouvement qui a été créé il y a quelques années, en fait. Moi, ça n'existait pas quand j'habitais en Russie, ou alors c'était vraiment les prémices. Et c'est vrai que d'y retourner là en 2022, de les voir aussi présents dans la rue, de les croiser, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Et je pense que... c'est ce genre de mouvement qui infiltre l'éducation et qui devient aujourd'hui beaucoup plus difficile de s'en soustraire et d'avoir une opinion. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui en Russie, ceux qui ont une opinion divergente la taisent. Ça, c'est sûr. Ce qui n'était pas le cas quand j'y habitais. En 2010, les gens parlaient, s'exprimaient sur les réseaux. On n'avait pas du tout cette autocensure. Parce qu'on n'avait pas encore ces procès pour un tweet ou ces condamnations pour des propos anti-guerre sur les réseaux sociaux, ce qui est aujourd'hui le cas.
Et donc cette évolution de la société russe, elle entame aussi ta propre relation à Moscou. À un moment, tu écris « J'ai un goût amer en bouche de la revoir et de l'avoir aimée ». Alors qu'est-ce qu'elle dit cette phrase ?
Oui, c'est vrai que ça a été un peu comme un désenchantement assez progressif et puis avec ce coup de grâce quand la Russie a envahi l'Ukraine. Et puis c'est vrai que je m'y attendais pas. D'ailleurs, quand ça s'est passé, j'étais quelques jours avant à Kiev, j'étais en reportage en Ukraine. Et c'était assez étonnant parce que, alors j'étais sur un sujet complètement différent parce que je faisais un reportage sur la GPA, j'allais suivre des mères porteuses ukrainiennes. En fait, il y avait tous les journalistes de guerre qui ont débarqué à Kiev, qui étaient persuadés que l'invasion allait arriver dans les quelques jours qui arrivaient. Et moi, je me disais, je trouve ça bizarre. Ça m'étonnait. Enfin, ils parlaient vraiment d'une prise de Kiev. Enfin, c'était assez anxiogène. Et puis, après, quand ils ont franchi la frontière, c'est vrai que j'ai été assez dévastée ces jours-là. Je suivais frénétiquement l'actualité. J'ai commencé vraiment à faire une fixette là-dessus. Et puis, en parallèle, j'avais des gens qui étaient à Moscou qui avaient très peur. Et encore plus quand a sonné la mobilisation, puisque j'avais des amis qui étaient parents aussi de jeunes à l'âge d'être mobilisés. Donc il y a eu vraiment un coup de... les gens sont partis. Je connais des gens qui sont partis du jour au lendemain, qui ont tout laissé derrière eux, l'appartement, et qu'on fuit Moscou pour traverser la frontière. Donc c'est vrai que j'en garde un goût amer d'avoir passé des bonnes années là-bas et de pas savoir en fait si un jour, je pense qu'un jour je pourrais y retourner, mais de voir l'avenir en fait se refermer sur le pays.
Merci. Alors, comme on l'a dit au début de l'émission, tu es journaliste et ce livre, c'est ton premier livre. Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire d'autres? Qu'est-ce que tu as trouvé de différent dans cet exercice d'écrire un livre long plutôt qu'un article?
Ouais, alors j'ai adoré l'écriture du livre. Pour moi, ça a été vraiment une porte ouverte par rapport à mon métier de journaliste, de pouvoir raconter un peu le off en fait du reportage, de enfin voilà d'écrire sur du long, même si c'est pas un livre qui est très long, mais voilà, ça j'ai pris beaucoup de plaisir. Je crois que j'avais plein de choses à dire sur la Russie que j'avais jamais pu dire avant. Après, ça a été un projet quand même difficile. Je pense que c'était un premier livre difficile parce qu'il a fallu m'accorder aussi avec Serge pour respecter le droit à la vie privée, tout ça. Alors, on n'était pas d'accord, vu que c'est un personnage qui existe et qui est bien réel. Et puis après, il y a eu la difficulté aussi d'écrire un livre sur la Russie et de faire attention, vu la situation politique là-bas, de ne pas exposer des gens du livre, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un... Voilà, il y a eu quand même cette... cette difficulté-là, pour moi, de préserver les gens qui témoignent à l'intérieur. Donc c'était voilà, ça c'était quelque chose de particulier, mais j'ai aimé cette expérience, ouais. Sinon d'écriture.
Et t'aimerais bien la renouveler ?
Et oui, j'aimerais bien. Alors pour l'instant c'est pas d'actualité, mais voilà, après j'aime vraiment mon métier de journaliste et c'est mon premier. Enfin, on va dire que ce livre c'est un plus, mais que mon métier ça voilà, je vise pas spécialement à réécrire des livres. Si j'en ai si une idée me vient, ce sera avec plaisir, mais pour l'instant c'est pas d'actu.
Alors, est-ce que cette envie d'enquête, d'immersion, tu l'as toujours eu? Si tu devais trouver un mot qui résumerait l'origine de ton projet d'écriture journalistique, est-ce que tu en trouverais un?
Je crois que ça pourrait être l'immersion ou l'écoute, si j'ai le droit à deux mots. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est de passer du temps avec les gens pour essayer de comprendre et avoir des points de vue différents, quoi, pour rendre un peu la complexité des choses, parce que je pense que c'est ça qui rend la beauté aussi aux choses, c'est de les voir complexes et de voir qu'il y a, enfin voilà quoi, que c'est on peut jamais trop résumer. Enfin, je trouve qu'il y a un certain espoir aussi à avoir de la complexité. On se dit qu'il y a toujours des choses possibles.
Alors, tu fais partie d'un collectif de professionnels des métiers du livre, de la culture et de l'écriture. Et vous êtes une vingtaine à vous partager les bureaux qui se situent au-dessus de l'excellente librairie de la Petite Gare à Rezé. En ce moment, sur quoi travailles-tu? Quels sont tes projets futurs?
Alors, je travaille sur pas mal de choses en même temps, en général. J'ai plusieurs articles toujours sur le feu. Après, en gros projet, je travaille pas mal sur la protection de l'enfance en ce moment pour différents médias, sur les difficultés de la protection de l'enfance, l'accès aux archives pour les jeunes qui sont issus de la protection de l'enfance. Voilà, je prépare un reportage en BD pour la revue dessinée là-dessus. Voilà, donc ça va paraître cet été. Donc ça, c'est un premier projet. Et après, on lance aussi avec d'autres journalistes de la Petite Gare. On s'intéresse un peu au captage d'eau en Loire-Atlantique et au problème des polluants éternels. Voilà, un vaste sujet où on aimerait creuser et voilà, donc pour l'instant on creuse et puis pour les captages et après on va proposer à des rédactions et voir un peu l'intérêt qu'elles ont pour le sujet.
Eh bien, c'est déjà la dernière question. En guise de générique, je demande toujours si tu cherchais à associer ton travail à une musique. Est-ce que tu en trouverais un morceau un chanteur, une chanteuse.
Bah, j'aurais envie de trouver un chanteur russe. C'est hyper kitsch, mais oui, on pourrait mettre Million Rose d'Ala Pugacheva, qui est une chanteuse russe de l'époque soviétique. Voilà, que j'adore, surtout au karaoké à Moscou après quelques vodkas. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Marine Dumerger. Alors, on rappelle que Le Prince de Kalmouki a été publié aux éditions Marchiali et qu'on pourra te retrouver prochainement dans les magazines Géo, la revue dessinée, Libération, enfin, sur tout un tas de supports. Merci beaucoup.
Bah, merci à Samouraï alors, et à toi.
Samouraï, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission sera également rediffusée dans 15 jours et vous pourrez nous retrouver en podcast sur le site de Jet FM où je vous invite aussi à aller faire un petit tour du côté des dons puisque la radio a besoin de vous et de votre soutien pour continuer à exister. Alors on vous remercie chaleureusement par avance et à très bientôt. Продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна площадь цветами. Холодеет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез, но в ее жизни была безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Миллион алых роз. Из окна.
окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя преврати в цветы. Жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.